Bienvenue à tous et à toutes sur Radio B. Il est l'heure de Résonance. Résonance, une chambre d'écho, un réceptacle de ce qui se vit, s'entreprend, s'invente, s'expérimente, s'explore, se crée, se réfléchit, se pense. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne, au microphone, Alain Goudard. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui, dans cette émission, cet artiste de grand renom qu'est Beniat Achiari. Il a accepté de nous livrer, au cours d'un entretien, son regard, sa réflexion sur la voix, le chant, la musique, l'improvisation, la djalaparta, la vie. Installé dans le Pays basque du Nord, où il est né, cet artisan exceptionnel s'est placé depuis de nombreuses années au service de la langue et de l'expression orale. Chanteur, musicien, improvisateur vocal, remarquable homme de scène, Beniat Achiari attire les plus grands solistes par sa souplesse intellectuelle, son ouverture à l'autre et ses grandes capacités techniques. Nous retrouvons cet artiste très chaleureux dans les jardins de l'hôtel Oartia à Saint-Jean-de-Luz, un petit cocon propice à la rencontre, à l'échange et à la conversation. Beniat Achiari, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps, d'avoir fait le chemin de Bayonne jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et pour participer à cet entretien. Et ce qui me semble peut-être important pour que nos auditeurs puissent aussi vous connaître un petit peu plus, peut-être situer un petit peu votre parcours, simplement, ou peut-être les points qui sont forts aussi pour vous, votre attache. On se le disait hors micro, par exemple, à l'oralité, à la voix, à la parole, au poème, aux mots.
Oui.
Et vous disiez aussi que l'oralité n'est pas la science des pauvres.
Oui, oui.
Tout ça, ça démontre un engagement artistique tout à fait particulier et fort, certainement lié à une histoire aussi de la présence de la tradition dans la région où nous sommes, le Pays basque, bien sûr, mais aussi, une démarche philosophique, un engagement particulier sur le sens que représente pour vous une démarche artistique, et notamment la voix, voire la création, parce qu'on peut dire que vous êtes vocaliste, vous avez abordé la musique contemporaine, la musique traditionnelle, et que vraiment la rencontre est quelque chose de majeur dans votre parcours.
À vrai dire, même carrément, je ne fais plus du tout de différence.
C'est ça.
Tout à l'heure, je parlais et on m'a demandé quand c'est que le chant était venu en moi. Et je dis qu'il était déjà semé en moi dans le pays où j'ai grandi. Donc, je suis né en 1947 à Saint-Palais, dont on appelait où, en basque. C'est un pays de collines, de rivières.
Ouais.
Et quand je pense à lui aujourd'hui, c'est un pays qui n'existe plus, tellement il a changé.
Tellement il a changé depuis toutes ces années.
Oui. Et donc je suis le fils de l'enfant de ce pays. Je me rappelle, j'aimais beaucoup sortir devant chez moi quand l'orage arrivait.
Oui.
Pour être béni par le son de l'orage.
Le son carrément de l'eau et de l'orage.
De l'orage. Et par cette avidité pour moi d'être ému et émerveillé par le déchaînement cosmique. Mais on allait aussi dans les rivières, c'est là que j'ai appris à nager. Nage indienne, bien sûr, pour commencer. Je dis ça parce qu'on est toujours lié aux tribus indiennes depuis 1992, notamment les Sioux Lakota. Ce n'est pas une relation régulière, j'en pourrais en parler tout à l'heure, mais
bien
fidèle.
Sûr.
Ouais. Et il y a pas mal d'anecdotes très, très savoureuses qui nous donnent envie, bien sûr, de continuer. Alors, oui, l'enfant des rivières, des collines, aussi comme du jeu. Le jeu, c'est de l'improvisation. Quand on joue
Absolument.
à la pelote dans l'espace, on danse dans l'espace, et puisqu'il faut gagner par la beauté des coups portés, ça c'est très important, il faut imaginer le parcours de la balle dans l'espace, le connaître à
C'est
travers de
ça.
multiples expériences, et laisser, puisque dans le jeu, si on calcule, on arrive trop tard sur la balle, laisser l'instinct
L'instinct réagir.
réagir, mais un instinct savant de toutes les expériences passées. Et aussi, il faut vous dire qu'en basque, quand on salue un coup gagnant,
Oui.
on dit Ederki.
Ederki.
Ederki, il y a le mot Eder
Oui.
qui veut dire beau. Alors, donc, on salue la
La
beauté
beauté du
dans le
geste.
geste, mais aussi on dit Ederki baïta gossatu. Donc, il en a joui. Donc, c'est pas simplement l'habileté technique,
C'est
mais c'est
ça.
aussi, il y a quelque chose de très spirituel dans la jouissance produite par la beauté. Et une beauté surgit de l'instinct et aussi du sourire qui doit animer le joueur, à mon avis.
C'est très
Intérieur.
important ce que vous dites là, je trouve.
Eh oui,
Parce
donc.
qu'entre le phénomène de compétition qu'on va
Oui.
voir et cette dimension
Ouais.
beaucoup plus spirituelle finalement
Oui.
qui est là, il y a un sacré chemin effectivement.
Alors, il y a un mot pour dire ça en basque aussi, on dit Plaça Gizon. Plaça Gizon, donc il y a bien sûr l'homme, mais maintenant,
Oui.
quand on joue à la pelote, les femmes jouent à la pelote aussi. Hein.
D'accord.
Donc, ce n'est pas simplement l'homme
Oui.
au sens du genre,
C'est
mais c'est
ça.
l'être humain. Qu'il soit homme ou femme, cette noblesse qu'il doit avoir dans le respect de l'adversaire, dans le fait de aussi saluer la beauté chez l'autre, chez les coups qu'il a portés, même si on
C'est sûr,
perd
bien
avec,
sûr.
il y a quelque chose
Il y a
qui
une
donne
grande
une
part de respect,
hauteur,
oui, une hauteur de vue et de rapport.
ouais. Et qui n'enlève ni rien au rire, ni à l'ironie, ni à la nostalgie, ni rien.
Bien sûr.
Donc, c'est un peu des choses comme ça que j'ai pu apprendre, avec aussi le rapport à la nature à travers les jeux de l'enfance, mais le travail aussi. Les mêmes mots qui s'appliquent à la pelote s'appliquent aussi au geste du travail. Je me rappelle les vers de Bernard Mansiette, le grand poète
Grand pote,
gascon
et bien
et
sûr,
universel.
et universel
Universel.
aussi, vous avez raison.
Quand il voit le travailleur des fouets avec ce très, très beau geste soulever comme ça l'herbe, la récolte de l'herbe, ou par le râteau,
Oui.
il dit: Et nous soulevons l'Orient sur nos râteaux barbus.
Wow.
Donc il y a quelque chose qui salue la beauté, mais qui est aussi une hauteur spirituelle très forte,
Tout à fait.
mais aussi l'Orient en nous. Donc immédiatement,
C'est l'ouverture.
c'est l'ouverture, mais le voyage instantané
C'est ça.
aussi, ce n'est pas simplement une ouverture, on y va vers,
Oui, mais
c'est
c'est dans
qu'il
l'instant
est
même.
là.
Oui, c'est ça. Et dit qu'il est complètement intégré à ce que nous
Oui,
sommes aussi.
oui, oui. Donc il y a
Donc c'est
ça
dévoiler
aussi.
aussi ça, c'est amener à dévoiler cette prise de conscience qu'on est aussi ça.
Ben oui. Et alors, quand j'étais petit, quand on ne travaillait pas avec nos parents, on allait chez notre tante,
Oui.
tante Katine. Donc elle était couturière, elle habitait la rue des Cagots. Alors les Cagots, il faut le dire, c'est une minorité sociale qui a été opprimée en Pays basque,
D'accord.
comme les bohémiens d'ailleurs. Donc il y avait une porte spéciale pour entrer à
Ah oui,
l'église pour eux.
carrément.
Donc il ne faut pas
D'accord.
oublier que la société basque aussi, sans l'idéaliser, elle a pu être raciste, hein,
Elle avait des caractères d'exclusion.
d'exclusion. Alors la rue des Cagots, oui, c'était sur l'ancienne route médiévale qui traversait Saint-Palais et qui montait vers le col de Chibaltare dans les chemins de Saint-Jacques.
D'accord.
Voilà. Elle habitait là, une petite maison. Et quand on était petit, je me rappelle, le feu était toujours allumé
Ouais.
dans le feu vivant, hein,
Ouais.
avec
Dans
le bois,
l'âtre, ouais,
dans
avec le
l'âtre.
bois, ouais.
Maintenant, où est-ce qu'on voit ça dans la maison,
Oui, on ne voit plus ça.
hein? On ne voit plus ça. Et le soir, on était petits, on couchait dans la même chambre qu'elle, en robe de chambre, quand elle défaisait Mukiwa,
Ses
le
cheveux.
petit chignon ici,
Ouais.
et bien les cheveux descendaient jusqu'au creux des reins.
Oui.
Et elle parlait aussi, etc. Et elle avait un très beau fils, très beau fils aussi. Voilà, il y avait son mari que je n'ai pas connu était musicien. Et nous, on l'aimait, quoi. On
Beaucoup.
l'adorait beaucoup.
Ouais.
Et puis, on allait aussi, quand on ne travaillait pas avec nos parents, ils nous expédiaient soit chez elle, soit chez des cousins. Alors, les cousins étaient métayers d'une ferme qui s'appelle Chenimenia, dans le village de Saint-Justibar, dans Aïchti, en basque, qui est au pied des Arbailles, qui sont des montagnes. Qui sont comme un espèce de piémont déjà assez
Oui,
élevé,
ouais.
d'où on voit toutes les Pyrénées. Et
Ah.
une montagne calcaire
Ouais.
parsemée de gouffres.
Ah oui.
Donc je dis ça parce que j'étais quand même à spéléo pendant très
Très
longtemps.
longtemps.
Et avec des verticales absolues de plus de
Waouh.
300 mètres,
Ah oui.
dans parmi les plus grandes au monde, dans ces petites montagnes qui culminent à 1300 mètres.
Ah oui,
Mais pleine de
incroyable.
forêts, pleine
Ouais.
de bergeries. Et je montais avec mon oncle. Je voyais le brouillard en bas dans
Ah, ça doit être
Arlacondo,
extraordinaire, ça.
voilà, vers les sommets, pour aller voir ce que devenait le
Le
troupeau.
troupeau, oui.
Et dans ma jeunesse aussi, puisque ben, en ce moment, je travaille sur les contes
Oui.
de la montagne de Miguel Torga, le grand écrivain portugais. J'ai vu des bandes de jeunes portugais qui avaient traversé la frontière. Et donc, depuis ma petite enfance,
Vous voyez,
je vois les migrations
c'est ça.
traverser notre pays, comme elles l'ont toujours fait.
Mais bien sûr.
Voilà. Alors, quand on me disait quand c'est que le champ a été
Oui,
semé,
je comprends.
c'est là. Et je me rappelle, mes cousins, ben, dans la ferme, il n'y avait pas d'eau courante. Hein. Il fallait aller chercher à la source avec la pégara, avec la cruche.
Oui.
Les cabinets, c'était au bout du
Du
jardin.
jardin,
Vous avez dû
j'imagine.
connaître ça aussi.
Oui, dans certaines années.
Il n'y avait pas de tracteur, donc il y avait la charrette qui tanguait sur le
Sur le
chemin.
chemin.
Voilà. Et il y avait, je dis ça sans nostalgie,
Non,
hein.
non, 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 bien sûr, mais
C'est
c'est simplement
pas.
un regard sur ce qu'était
Oui,
ce moment.
c'est pas. Voilà, c'est pour bien cerner d'où
Absolument.
je sors là.
Oui.
Et alors, le soir, après le travail, dans la nuit, on voyait
Toutes les
souvent toutes
étoiles.
les étoiles. Mes cousins, dans la nuit bruissante d'insectes, maintenant je ne sais pas si on pourrait le dire, ben, il y en a beaucoup moins,
Il y en a nettement moins, oui.
ils prenaient leur clairon et ils tutaient dans la nuit. Et donc
Extraordinaire, ça.
j'avais, comme j'étais petit, j'avais l'émotion du son
Du son,
à côté, là, à
c'est ça,
l'oreille.
ouais.
Et on attendait, mais on attendait quoi? Que la réponse vienne d'une autre ferme. Et attendre que la réponse
Se
vienne
fasse.
dans la nuit
Ah!
bruissante d'insectes, c'est une sacrée
Ah,
leçon de chant
j'imagine.
et de musique.
Complètement. Complètement. J'imagine qu'elle se faisait dans un certain délai aussi. Donc,
Et oui,
il y avait cette
cette
attente.
attente, ce désir de la
C'est ça,
réponse.
oui,
Hein?
ce désir et cette émotion, je dirais, de
Cette émotion.
recevoir
Ah
cette
oui,
réponse.
c'était la nuit aussi.
Bien sûr, encore en plus, l'obscurité.
Oui, une obscurité magique. Hein? Je me rappelle, on tendait des draps à l'époque, on mettait de la lumière
Oui.
et venaient plein de papillons, des grands papillons comme ça de nuit, qu'on ne voit peut-être plus maintenant. Enfin, c'était très vivant, quoi.
J'imagine.
Et alors, un jour, on m'a demandé aussi quelles étaient aussi mes leçons de musique.
Ouais.
Et on a vu aussi dans le village être très stimulé, j'allais
Oui.
dire ensemencé, presque,
Oui.
par la présence de gens qu'on admirait beaucoup. des grands joueurs de pelote et tout ça.
Ouais.
Par exemple, celui qui nous enfournait dans la traction noire de son père pour aller jouer dans les frontons de montagne, Michel Loustalot, pour ne pas le nommer, était un grand champion au petit gang, il était gaucher, et même à la raquette argentine. Lui, on l'admirait beaucoup, et il avait un jeu très beau. Mais aussi, il y avait un grand champion qui s'appelait Jean Urruti, dans le village. C'était une sommité du monde de la pelote.
Du monde de la pelote.
Il était petit, il était très élégant, il avait grandi dans le trinquet Saint-Gemme de Saint-Palais.
Ouais.
Et il était le plus fort dans toutes les disciplines de la pelote, même la main nue.
Waouh.
Et alors on m'a dit donc on est dans une société où il y a des grands joueurs, des gens qu'on aime, qui sont respectés pour telle et telle raison, des chanteurs et autres.
Oui.
Et ceux-là, plus ils existent dans une société avec une éthique dont j'ai parlé tout à l'heure, plus ça permet la naissance,
ça génère. Bien sûr, ça nourrit, ça permet à ce que d'autres puissent, ces côtés-là, se nourrir
et grandir.
Tout à fait.
Donc, alors j'ai dit, une leçon de musique, oui. C'est le coup de pédale silencieux de Jean Urruti sur son vélo qui traverse en diagonale la place de Saint-Palais. Et alors, il y avait une élégance dans son coup de pédale.
On peut l'imaginer, comme vous nous le décrivez en tout cas.
Il était donc bien sur son vélo et il pédalait avec élégance. Et d'un petit peu loin, on n'entendait rien, on voyait que sa trajectoire.
C'est ça. Ouais.
Et ce sont des choses comme ça qui, voilà, avec l'aspect vibratoire aussi, des chants portés par les chœurs spontanés qui se faisaient. Et le côté vibratoire de ces chants était très fort. Et je me suis aperçu, puisque j'ai enseigné la musique, que la présence de la vibration à côté, pas en face, mais légèrement à côté, était un bon vecteur pour donner la justesse, la richesse, et stimuler, sans que la raison n'entre en jeu, une connaissance orale dont vous parliez tout à l'heure, et qui est de haute science.
C'est ça.
Alors, en basque, on dit l'oralité, c'est pas de bouche à oreille. On dit, comme en Allemagne, je crois, de la bouche à la bouche. Donc, il s'agit de la manducation.
Il s'agit
de manger.
Oui.
Et aussi, autant physiquement que spirituellement. Et donc, ça devient chair de votre chair.
C'est ça.
Hein? Donc, ça vous nourrit et c'est vous qui grandissez. Donc,
je trouve que c'est extrêmement important ce que vous décrivez, ce que vous dépeignez, parce que là on touche aux essences mêmes de quelles que soient les musiques, qu'elles soient, et quelles que soient les cultures d'ailleurs, où on voit cette implication très forte aussi à la fois dans certaines cultures du corps, de l'écoute de l'autre,
du regard porté vers par ceux qui sont passés par là.
Et ça veut dire aussi que on voit bien, même si la musique, au fur et à mesure des temps et des siècles, a ses versions d'oralité très importantes, mais aussi d'écrit, puisqu'elle va s'écrire, elle va trouver des modalités différentes, mais qu'on est obligé d'aller au-delà.
Oui, mais
et que c'est qu'un support de mémoire.
J'inclus l'écriture dans l'oralité aussi, dans la mesure où l'écriture devient le baptême des sons que l'on fait.
Ça, c'est intéressant.
Voilà. Et heureusement qu'on le fait comme ça et que nous, on a appris à parler sans apprendre la grand-mère sans parler.
Exactement. Exactement.
Donc, c'est le processus d'apprentissage très intéressant.
Et ça me semble extrêmement important, ce que vous soulevez, et qui est souvent un chaînon encore, même si les choses ont bougé, on peut dire, dans les enseignements, dans la transmission, mais qui reste toujours un débat. Et d'autant plus fort, surtout lorsqu'on parle de musique très différente. J'évoquais de la musique contemporaine tout à l'heure en entrant. Et quelquefois, oui, certaines vont nous permettre des accessibilités de cet ordre, mais d'autres sont d'une complexité beaucoup plus difficile.
Mais même dans une interprétation dans Mozart ou dans Satie, moi, ce que j'entends tout de suite dans l'interprète, c'est ça.
C'est ça.
C'est l'irruption d'un vécu. Que sûrement le compositeur a ressenti quand il a composé. Alors, plein de choses. Par exemple, il n'était pas rare au conservatoire que un jeune pianiste qui joue les pas dans la neige de Debussy,
oui.
vient me dire, bon, Beignat, voyons, écoute, alors je ne sais pas lire oui. la musique,
mm-hmm.
je connais bien ces partitions, je chante les chansons de Bilitis,
ah oui,
j'aime beaucoup,
bien sûr,
mais je ne sais pas
la déchiffrer,
la déchiffrer sur par un, une partition. Sur
une partition.
Et alors, il joue et il voulait avoir mon avis, donc il joue. Puis, voyant ça, alors je lui ai dit, tu as marché dans la neige et quand c'est un petit peu gelé, ça fait crac et ton pied rentre dans la
c'est ça dans la matière.
Dans la matière. Mais il faut que tu fasses comme ça avec les accords, avec les notes. Et donc. Par la résurgence de son propre vécu.
De son propre vécu personnel et physique.
Physique, très physique. Il avait un chemin pour qu'il réinvente pour lui.
C'est ça.
Et pour nous.
Et pour nous.
Sa manière de jouer. Il n'y en a pas qu'une, bien sûr.
On est
chacun
d'accord.
donne sa saveur.
Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, exactement. C'est qu'il y a vraiment une vision plurielle
oui.
de chaque œuvre. Il n'y a pas qu'une vision.
Non.
Ne serait-ce que parce que même celui qui l'a imaginé a eu des sentiments multiples oui. aussi.
Mais d'ailleurs, j'ai toujours senti ça chez les gens que je considérais comme mes maîtres.
Mmh.
Et l'imitation, c'était, il ne fallait pas, quoi.
C'est ça.
Par contre, ils attendaient ce qui allait naître de nouveau chez les gens.
C'est ça.
C'était ça qu'ils cherchaient.
Mais bien sûr.
C'est ça que nous cherchons, nous aussi, mmh. dans tous les aspects, je crois, de la vie. Donc, alors... Un jour, pour revenir à la Chalaparta, donc un jour, je revenais d'avoir joué avec Jesús et Roxian Arce, mm. qui sont au Pays Basque, ceux qui ont fait renaître la Chalaparta, ce sont eux, hein,
c'est ça,
des bribes de la tradition qui restait encore vivante.
Mm.
Donc ils l'ont pas imité, ils l'ont comprise, et l'ayant comprise, ils y ont tout de suite donner une valeur que la simple imitation n'aurait pas pu donner.
C'est ça.
Ce qu'il faut comprendre.
Ça ouais. paraît extrêmement important ce que vous soulevez là.
Et oui, parce que bon, aimer, l'amour, c'est avant tout de la compréhension.
Oui.
Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc si jamais on ne comprend pas, eh bien voilà.
Cet amour-là ne peut pas exister.
Non,
il ne
peut pas exister.
Hmm.
Alors c'est eux qui l'ont fait naître. Donc pour moi, c'est dans la Chalaparta, c'est eux qui, et le fait de les fréquenter pendant
oui,
beaucoup d'années, et de chanter à leur côté, il m'a été permis de comprendre ce que c'était la Chalaparta. Mais un jour, après avoir fait un concert à Barcelone,
mm-hmm.
tous les trois,
oui.
donc Roxian, Jesús
et vous-même.
Moi, on rentre, un camion, parce qu'il faut rentrer... un camion, parce que
les
poutres, on ne peut pas les mettre dans le coffre c'est de la ça. Voiture. Hein.
La dimension à peu près des poutres, c'est quoi
ah ben, on, 3 dit, mètres. On dit presque, c'est presque le double de votre envergure.
D'accord.
Bon, les miennes poutres, elles ne sont pas exactement cette dimension.
Oui.
Mais c'est pas comme ça, quoi. Hein.
C'est
beaucoup
ça.
Plus grand.
C'est beaucoup plus grand. Donc, puis ça a du poids aussi en même temps.
Ça a du poids, donc c'est à peu près comme ça.
Oui.
Hein? Il y a une manière de le récolter, de le couper, de le sécher dans l'eau.
Donc il y a toute une préparation.
Oui, que Roxian a bien dit, a bien défini dans son dernier livre consacré à la Chalaparta.
D'accord.
Qui est paru après sa mort, que sa femme Carmen a fait paraître.
Mm-hmm.
Donc ce livre, il est écrit en basque, mais déjà le fait de l'avoir, même en basque, ça serait...
formidable.
Ça serait très bien.
Absolument.
Parce qu'après, il y a les textes fondamentaux sur le jeu de Chalaparta, ils sont là. Hein.
Mm.
Donc, nous revenions et il fallait bien un camion pour porter 18 ou 20 poutres.
C'est énorme.
Et il y avait Réchouche qui était étendu sur le siège arrière, comme ça, et Roxian qui conduisait.
Qui conduisait.
Et moi à côté. Et comme je devais donner à une classe. Au Centre National de la Danse sur la transmission,
mm-hmm.
et j'en profitais
d'avoir, ben oui.
De l'avoir à côté. Et je lui dis, comment on dit se rappeler, Roxian,
voilà.
en euskara, comment on dit Il m'a dit Gogoratu. Le processus Gogoratu. Gogoratu. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire,
oui.
Gogoratu? Alors, ouais. Il m'a dit Prescente egin, rendre présent.
Rendre présent.
Donc, on ne peut pas se rappeler sans revivre, en fait.
Ça, c'est extrêmement aussi important ce que vous soulevez là.
Ah, ben oui. Donc, mais c'est pas fini. Donc,
j'imagine.
Déjà, donc quand on chante une aube ou le frémissement de branches fleuries, comme ça, il faut que, ou n'importe quel sentiment, il faut le revivre. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas se situer à la surface des choses et imiter. Si on a 25 couplets à chanter sur le même air,
ils ne peuvent pas être de la même manière.
Semblables.
C'est ça, exactement. C'est pas la même thé.
Non, et puis ça doit être une aventure non calculée. Ça doit être une aventure non calculée.
Ça aussi, c'est extrêmement important, ce
oui.
que vous soulevez.
Oui, oui, oui. Mais autrement, on ne peut pas.
On ne peut pas.
On peut pas nous-mêmes rayonner de notre expérience, transformer en son. Et mettre
c'est un peu aussi cette idée que la répétition, si on la voit dans le registre que vous dépeignez, et chaque fois, le fait de revivre l'élément doit être aussi dans cette perspective de la répétition qui fait qu'elle est toujours nouvelle, qu'elle n'est jamais identique en elle-même, et qu'elle devient un processus vivant et générateur, elle aussi.
Oui, c'est surtout pas rabâcher.
C'est ça.
C'est recueillir une expérience de l'aller vers les sons qui nous permet de revenir, mais surtout pas de refaire le même.
C'est ça.
Mais d'avoir suffisamment d'expérience pour en réinventer un autre.
C'est ça. Et donc d'oser s'aventurer dans cette parce que c'est un petit fil sur lequel on ne sait pas ce qu'il sera finalement et c'est aller vers toujours un je ne sais quoi que je ne sais pas ce qu'il sera finalement.
Oui, il faut simplement puisque le chemin sera neuf, il faut simplement avoir pris l'habitude de faire l'aller et le retour.
C'est ça. Il y a quand même l'aller et le retour.
L'aller et le retour.
Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose effectivement d'important. C'est une expérience assez incroyable.
Ah, mais oui, et c'est ça.
Mais qu'il faut oser vouloir découvrir, bien sûr, ressentir. Peut-être oser se perdre aussi à un moment donné.
Oui.
Mais tout en sachant que quand même, il y a ce retour qui va se faire d'une autre manière.
Ah, ben oui.
Mais il va s'habiter de toute façon,
sûr.
Ce retour.
Ah, c'est sûr. Cette expérience est indispensable. Et alors... comme il était parti dans sa pensée, dans son raisonnement, en conduisant, des fois la conduite permet
aussi une réflexion.
Une réflexion. Donc, go, 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 gora, go, gora, tout do, oh, 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 oh. Et il a fini par psalmodier le son O. Oh.
Extraordinaire, ça aussi, ça.
Voilà, le chanter le son O, oh, qui avait au cœur du mot. Donc, je pense que là, c'était une très grande... Pour moi, qui était à droite du chauffeur.
C'était une expérience incroyable,
dans le camion.
Oui, parce qu'il devait y avoir aussi cet environnement sonore du camion.
Et son frère qui écoutait. Allongé.
Oui.
Il était allongé, il était dans une position différente de la conduite.
C'est ça.
Il était en méditation, peut-être. Il était en tout cas dans une position, voyeux.
Donc c'est un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, la qualité de l'écoute aussi, comment je vais être aussi dans cette qualité qui va faire que je suis aussi dans la réception, je suis aussi dans le ressenti, là c'est une écoute pas neutre, et qui est complètement active.
Ah, c'est sûr. Et voilà, donc j'ai eu de la chance.
C'est formidable.
J'ai eu beaucoup de chance de côtoyer ces gens... exceptionnel.
Oui, parce qu'on voit qu'il nous amène au fondamental, finalement.
Oui.
Et c'est ça. C'est peut-être aussi ça qu'on va chercher quelque part, quelles que soient les pratiques artistiques, finalement, où elles peuvent nous entraîner, mais oser s'aventurer à creuser, à chercher cet endroit qui n'est pas facile, bien sûr, à trouver pour chacun d'entre nous, mais que tant qu'on ne l'a pas trouvé, finalement, alors on peut le chercher longtemps, mais peut-être une fois qu'on le trouve ou qu'on l'aborde, même si les doutes sont là, les incertitudes, il y a un quelque chose. Peut-être un endroit qui nous permet de se dire, oui, là, c'est là où je peux creuser vraiment.
Oui, c'est la réalité devenue poésie. C'est-à-dire plus que réalité, la réalité hyper-réalité, comme l'eau derrière un voyage, un barrage. La poésie a ce pouvoir de concentrer la réalité d'une manière fulgurante à, comme dirait René Char, l'éclair dur, hein, donc comme un saisissement qui est à la fois sensuel et de connaissance, et de connaissance par ce frémissement-là qu'on reçoit, soudain et total. Par exemple, quand il décrit la beauté de la Vierge, Bernard Mansiette, il dit « Flocon de neige sur son cil, c'est un pli de pétale. » Donc, je ne vois pas plus concret que cette abstraction concrète. Oui, quoi.
Complètement.
Donc, il n'a pas dit « Elle est très belle, oui, ceci, c'est ça. Tout ça. » Non, il a dit « Flocon de neige sur son cil, c'est un pli de pétale. »
C'est ouais. magnifique comme...
Voilà. Donc, et après, il pose son regard sur son talon d'Achille. Il dit « Talon frêle, ce pur navire où la lune s'effile.
Wow. »
Pour traduire la beauté du...
Simplement du
pied,
talon.
Du pied. Pied là.
Ah, ouais. Extraordinaire.
Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement d'éléments coagulés ensemble.
C'est ça.
Que c'est ça le signe de la poésie, c'est ça pour moi, donc qui amène la plus haute conscience dans le plus haut savoir d'un coup comme ça. Alors lui il fait comme ça, mais il y en a d'autres qui font autrement,
tout à fait.
Mais qui sont tout d'un coup,
c'est ça,
on comprend,
ouais.
on sent comprend. Ça c'est pour moi très important. Et comme il était poète, Rochian, il était invité très tôt dans les Biennales de la Poésie.
Ah.
Et il allait souvent à Milan,
aux
Biennales de la Poésie de Milan.
Qui sont fort célèbres, justement, ces rendez-vous.
Voilà. Donc il disait la poésie, jouait la ciarabata, mais là-bas, qui il a rencontré? Il a rencontré le grand Demetrios Stratos, le chanteur de Aria. Et il y a les Japonais ont
bien
pris,
sûr, je pensais...
ils ont pris un enregistrement du groupe, d'un concert ou plusieurs pièces de Aria à l'époque, où on entend Demetrios Stratos avant le surgissement du jazz rock de l'époque chanter une très belle introduction dans le son de la ciarabata avec le son de Steve Lacy.
Ah oui.
Les trois.
Ça devait être quelque chose d'incroyable.
Et
ça.
Oui, on peut l'entendre. Hein.
C'est vrai, on peut l'entendre,
oui,
ça.
Oui,
ah oui.
Oui,
alors ça, effectivement.
Je vous l'enverrai,
ça,
là.
Volontiers, parce que je pense que ça serait quelque chose d'assez important à faire découvrir à tout un chacun, personnellement, mais aussi aux auditeurs de l'émission, de découvrir aussi, au vu de tout ce que vous venez de dire, voilà, ce moment.
Mais c'était il y a longtemps. Hein.
J'imagine.
Ils connaissaient, ils savaient les bonnes routes, hein, avec
ça.
Le camion. Et quand on voit la bibliothèque de Rochian ou celle de Réchoux, tout ça, mais
c'est incroyable.
Un jour où je m'émerveillais devant Rochian, de la beauté des œuvres de François Cheng, il me prend gentiment par l'épaule, il m'amène à la bibliothèque et puis il me montre. Voilà ce que Réchoux lisait avant sa mort. Il y avait tous les livres de Cheng.
Voilà, quel auteur merveilleux aussi, François Cheng. Et ce que vous disiez tout à l'heure de la poésie, cette manière aussi de cette présence de la réalité très fine, très ancrée aussi dans la chair et dans une observation la plus réelle, mais qui nous fait en même temps aller dans un imaginaire.
Quand il traduit les poètes chinois, par exemple Wang Wei ou ces grands poètes, et il dit « sanglots de roc dressés », alors que j'ai vu d'autres traductions qui n'étaient pas du tout
ça.
Ça.
Donc là, on voit bien que l'approche aussi est complètement différente.
Oui. Donc il s'agit bien d'une traduction, pourtant.
Tout à fait. Et on voit toute l'importance de... Non, ça serait un autre
sujet. Qu'est-ce qui réveille la vie en nous.
Ouais.
Sanglots de roc dressés ou alors les rochers étaient...
C'est ça.
Bon.
Qu'est-ce qui réveille la vie en nous? Ça, je trouve ça...
Qu'est-ce qui réveille la vie en nous,
Je trouve ça vraiment ça. C'est ça.
C'est
vraiment ça. Et que ce soit la musique, que ce soit la poésie, que ce soit... C'est cette dimension. Qu'est-ce qui va me réveiller, moi? Qu'est-ce qui va faire que je me mets debout? Qu'est-ce qui fait que je me mets en mouvement?
Dans un texte ancien sur la ciarabata, il dit que chaque coup sont des branches nouvelles.
Chaque coup sont des branches nouvelles. C'est extraordinaire aussi, ça.
Voilà. Ouais. C'est pas que bim, 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 bim.
C'est ça. Pour rappeler nos auditeurs aussi, c'est effectivement, on dépeignait tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est juste, on peut parler de poutres, est-ce que c'est...
Ouais, les poutres, hein, c'est des poutres, oui.
C'est vraiment des poutres, et puis qu'on va avoir
c'est
des bâtons...
C'est pas des planches.
C'est pas des planches, ça c'est extrêmement important c'est de le préciser, poutres. C'est quand même des poutres. Donc là aussi avec...
Alors, c'est pas la poutre qui soutient la maison.
Oui.
Et n'est pas...
Non, ouais, c'est ça.
Non, c'est des... Pour moi, je mettrais plutôt que planche, oui. Je mettrais le mot poutre.
Poutre, hein, est plus juste, hein. Ouais. Et ça, c'est important aussi. Et sur les deux musiciens, les deux hommes ou femmes qui vont être là en présence, vont se mettre à utiliser deux autres bâtons. Hein, chaque oui. partenaire a...
On appelle
les maquilles, voilà. Et va venir percuter et va venir mettre en résonance, en vibration aussi cette poutre.
Oui.
Mais peut-être que ça va plus loin que ça.
Oui, hein. Mais le coup frappé, il est spécial.
Ah.
Hein, le coup frappé, il n'est pas comme ça.
Oui.
Il n'est pas comme ça. Le maquis est tenu au milieu pour que le son obtenu soit pam.
Il y a un rebond immédiat.
Il y a un rebond.
C'est ça.
Pour oublier qu'on est au pays de la pelote quand même.
Et on va retrouver déjà dans le geste aussi, certainement, une même impulsion.
Vous avez vu, on a parlé de Kevan Shemirani.
Oui.
Vous voyez qu'avant de frapper, il fait toujours comme ça.
Tout à fait. Il y a quelque chose déjà dans l'impulse du mouvement.
Comme ça.
Tout à fait.
Donc, il ne fait pas tuk 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 tuk. Il y a quelque chose comme ça.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, ça, c'est très, très important. Et moi aussi, je m'inspire dans les mouvements que j'ai inventés,
oui.
Inspirés par la pelote, mais aussi par d'autres choses, pour le... comment le dernier peut devenir le premier pour le souffle. Grâce à la pelote.
Grâce justement à la pelote. Qu'en est-il alors ?
Eh bien voilà, donc il faut... Ça serait un peu long
d'expliquer toute la démarche.
Tout ça. Mais en tout cas, le fait de frapper comme ça...
Oui.
Et de jouer, je ne sais pas, n'importe quelle phrase, mais avec, ça permet à l'antre d'exister.
C'est ça. Oui, parce qu'il y a le rebond.
Et il y a le rebond. Il y a le coup, et s'il faut qu'il soit net, il sera net.
Oui.
S'il faut qu'il soit appuyé, comme des fois on joue du piano, comme ça, il le sera aussi.
Mm-hmm.
Mais il y a, grâce au rebond, l'espace,
il y a cet espace qui est ici.
Qui se crée. Et là, on retrouve à nouveau ce que dans ce vieux texte, mais qu'il explique longuement dans le dernier livre, etc. Oui. Il dit comme ça, il dit deux musiciens, quatre poutres, mais c'est toujours un troisième muet qui commande.
Ah oui. Ça, c'est important.
Ça, c'est extrêmement... très important.
Ouais, effectivement.
Donc, et l'improvisation ne commence pas n'importe quand.
Oui.
L'improvisation, on part sur tiakoun.
Oui.
Le tiakoun, mais joué comme je veux.
Oui, comme ça. Vous êtes en train de faire avec ce rebond de la gestuelle.
Voilà. Sinon, on prend des cailloux et on joue sur les poutres.
C'est ça. C'est pas un geste rigide.
Non, non.
On est dans quelque chose.
On est là.
C'est ça. Il y a une danse qui se fait tout de
suite. Et ils dansaient de manière différente, les deux frères. Donc... Tiakoun sur le rythme du cœur.
C'est ça.
Ça, c'est important.
Ça, c'est important, effectivement.
Comment on est, comme ça. On joue le tiakoun sur le rythme du cœur. L'autre rentre koun au milieu des deux, du tiakoun. Et aussitôt que Uchune, ils sentent Uchune, c'est-à-dire que le vide...
C'est ça, se comble.
Non, que le vide existe.
Ah.
Ils improvisent.
Donc il y a cette conscience de là où est l'autre, où chacun va pouvoir se trouver.
Il y a la conscience que c'est que le lieu de vie, c'est ce qui est entre.
C'est ça.
C'est pas le coup.
Et c'est pas le coup en lui-même.
Non.
Ça, c'est extrêmement important. Ça.
Mais oui.
Extrêmement
important. Et il dit,
ça change toute la vision des choses, d'ailleurs.
Ah, mais oui. Et donc il dit, et ça remet bien les choses en place, je pense, Rochelle, il disait ça pour n'importe quelle musique. Hein.
C'est ça.
Et la musique doit rendre le silence explicite. Dans le même texte.
Je comprends totalement.
Alors, il faut être très fort et jouer du point de vue, de tous ces points de vue, et jouer si bien. Bon, ce n'est pas contradictoire avec la technique,
bien sûr,
ni
non.
Avec la quête de la technique.
La quête de la technique non. Et de la précision,
voilà.
Ouais, bien sûr.
Plus nous sommes cultivés, plus nous connaissons des choses,
c'est ça.
Plus nous sommes en relation, plus nous sommes un meilleur conduit où le son peut s'incarner ou prendre corps, en tout cas. et mieux on va pouvoir jouer cet antre qui est le lieu de vie.
Et on voit quand vous évoquez ce antre justement, que là on fait des ponts avec de multiples pratiques musicales, puisque là on parle, là, aujourd'hui on est à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays Basque, on pourrait croire qu'on parle d'une pratique traditionnelle spécifique, qu'on évoque depuis le début de notre entretien, c'est vraiment une notion qu'on est élargie à quelles que soient les musiques, et quelles que soient...
C'est pour tout, quand j'écoute par exemple l'ensemble de free jazz du pianiste de free jazz là, Cecil Taylor,
oui,
dans ce document de l'INA où il joue avec Andrew Cyril à la batterie et le saxophoniste je ne me rappelle plus, on est saisi par ce antre qui existe tout le temps, et Dieu sait s'il joue parfois à foison avec beaucoup de
oui, on densité. Entend tout. Oui, mais on entend tout.
On entend tout. Donc, il y aurait l'ingénieur du son, là. Oui. Il enlèverait Andrew Cyril et le sax. On entendrait le piano, c'est un solo.
C'est ça.
On enlève le piano, on laisse Andrew Cyril jouer, c'est un solo. On met l'autre aussi tout seul, le saxophoniste, c'est un solo. Mais les trois ensemble, c'est le trio.
C'est le trio. Et là, il y a encore une toute autre dimension.
Et voilà.
Et là, ça me rappelle les propos aussi d'une philosophe française, Marie-Josée Monzin, qui dit que nous arrive-t-il quand l'autre arrive ?
Ah oui.
Et je trouve
c'est
que
très beau ça.
Alors voilà, moi aussi, il y a peu de temps que j'ai découvert les ouvrages de cette femme, mais effectivement, ils rejoignent. C'est une autre manière de mettre des mots aussi, mais il y a de ça aussi. Donc comment qu'est-ce qui va se passer et comment qu'est-ce que l'autre va être. Et quelquefois, c'est l'autre arrive avec quelque chose que peut-être j'attendais, mais que je ne savais pas que j'attendais.
Ah voilà, on ne sait pas. Voilà. Il vaut mieux être saisi.
Voilà, et je trouve, tout à l'heure, vous avez dit saisi, saisi par l'énigme de la rencontre, saisi par... on ne sait pas ce qui va s'y passer, finalement, dans ce moment-là.
Ce saisissement est très important, et plus on joue, même avec des amis, depuis très longtemps, etc., c'est un bon signe de savoir si la musique est en vie, d'être saisi par la beauté du son, du jeu, du compagnon, et ce qui en sort après pour la musique. Et moi, je me rappelle avoir vu le quintet de Charlie Mingus, films, dans sa tournée dans les pays du nord de l'Europe. Dieu sait si autour de lui, lui il joue la contrebasse, il y a Danny Richmond dans la batterie.
Oui.
Mais après les autres, ils sont très différents. Il y a Eric Dolphy.
Oui.
Il y a aussi le joueur de trompette qui joue complètement différemment.
C'est ça.
Et ils sont de styles très différents.
C'est ça.
Et pourtant, il n'y en a pas un qui va dire, où on sent du dédain pour le
pour
style.
L'un ou l'autre.
Pour l'un ou l'autre.
C'est ça.
Au contraire, celui qui joue d'une manière plus classique,
c'est ça.
Le joueur de trompette, quand Dolphy joue, il a la banane, quoi.
Et oui.
Et le contraire.
Et le contraire, bien sûr. Bien sûr. Donc on voit bien, c'est l'hétérogénéité, le côté pluriel, la pluralité des choses.
Ça dépend comment on vit qu'on joue.
C'est ça.
C'est ça le truc.
Complètement.
Donc on n'est pas du tout dans la réplique de forme, mais dans le moelle des formes, là partout où où c'est des choses très profondes de soi qui passent par ce canal pour naître.
C'est ça qui est important, pour naître.
Pour naître.
Accepter qu'elle passe, qu'on aille les chercher en nous.
Comment on est.
Voilà.
Tel qu'on est.
Tel qu'on est.
Petit, grand, gros.
Absolument.
Pour naître.
Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. Ça, je crois que c'est quelque chose de complètement essentiel dans ce que vous venez de dire. Donc, du coup, on voit bien que parler de la Chalaparta, ce n'est pas simple. Parce que ça nous emmène très, 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 très loin.
Oui, oui.
Et du coup, je ne sais pas comment je dirais ça, comment vous voyez ça, vous, aujourd'hui ? C'est-à-dire, on sent toute cette force, on sent toute cette... on se dit, le reste de la musique, même ici, ne peut pas exister sans toute cette conscience. Quelle est la présence, aujourd'hui, de la Chalaparta, de son utilisation ? Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a plus de mal à exister ? Ou est-ce que ça se vit autrement ? Est-ce que ça s'aborde autrement ?
Bon. À mon avis, elle fascine. Comme on
C'est
est
vrai
un
que c'est
pays,
fascinant.
on est un pays aussi en quête de reconnaissance d'identité,
Oui, c'est
il
vrai.
a aussi pris ce caractère et identitaire, mais il faut faire très attention là.
C'est ça.
Soit ça ouvre à la grande famille humaine,
C'est ça. Soit ça referme.
voilà, soit c'est une des fleurs du bouquet,
Oui.
soit non.
C'est ça.
Et donc le côté identitaire, s'il devient identitariste,
C'est
c'est
ça.
fichu.
Il y a une cloche qui se remet dessus,
C'est
ça
fichu.
ghettoïse finalement.
C'est fichu, voilà.
Ouais, c'est ça.
Par contre, il faut être fier de ce que joué par Arce, ces musiques apportent au grand concert du monde, comme Cage qui l'a entendu
Ah, ça, je ne savais pas. Cage, je l'ai entendu,
l'a
ça.
entendu à Pampelune lors des rencontres internationales de musique de Pampelune, faite par deux frères millionnaires qui ont été enlevés après contre rançon par, je crois, par l'organisation
Waouh.
État.
D'accord.
Donc un d'entre eux, je ne connais pas bien l'histoire, mais enfin ce festival s'est arrêté.
Oui.
Mais entre-temps,
Ah ouais.
il y a eu deux ou trois éditions où ils se sont connus quand même.
Ah, excellent. Donc là, ça a dû communiquer,
Mais oui,
j'imagine,
à
à
fond,
fond.
là, à fond. Ils
À
m'ont pas
fond.
raconté, Réchauche et Rochin, leur rencontre,
Ouais.
mais il était là. Hein.
Ah, ça fait très...
De
Oui.
même que Demetrios Stratos, il chantait pour Merce Cunningham, donc
Complètement.
Cage n'était pas très loin.
Absolument.
Mais qui parle de Cage comme ça, parle aussi de Bach.
Bien sûr, mais bien sûr.
Il parle de Bach, il parle de d'autres. Moi, ce que j'attends, et je suis très 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 content d'entendre ça. Je suis pas un grand connaisseur au sens de l'histoire ou de la
Oui.
connaissance des pièces classiques de Mozart ou de Liszt comme ça, mais il me semble
Oui.
que j'entends cette chose que quelqu'un crée en interprétant à sa manière une partition. C'est ce que j'attends. Voilà.
Oui, à chaque fois c'est ça, c'est acte de création
Oui, oui,
dans
oui.
le moment présent
Oui.
où on nous transmet, on nous restitue, enfin, le mot restituer non, mais nous fait partager
Oui. La
justement
naissance.
cette émotion et la naissance. Je crois que le terme que
La
vous
naissance.
utilisiez tout à l'heure, la naissance à chaque fois d'une œuvre.
Oui. Je me rappelle avoir en Catalogne française, du moins en France, plutôt que française,
Oui.
avoir été très touché alors qu'on jouait dans un jardin par la confession de la personne chez qui on jouait,
Oui.
qui nous a dit, j'ai senti, quand il s'est ouvert pour la première fois, l'odeur du lotus qui venait de s'ouvrir. Donc, elle nous a dit ça. Ah bon, mon ami, mais vous étiez, comment vous avez fait pour
Oui,
être
c'est
là?
ça.
À propos, comment vous avez fait pour être là? Ça, c'est une bonne question musicale.
C'est une très bonne. Comment vous avez fait pour être là? Absolument.
Au bon endroit,
Au bon endroit, au bon moment.
bien accompagné. Bon, bref. Et donc. Voilà, donc cette histoire-là, je me suis rappelé en se parlant là, cette histoire de jardin.
Tra la 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 la
Résonance sur Radio P. Comment vous avez fait pour être là, au bon endroit et bien accompagné Beniat Achari? Et là, nous venons d'entendre ce chant incroyable, ce chant qui nous évoque des mélodies sauvages, des chants sauvages et libres. En effet, à travers ce chant qui s'intitule Bella Ciao, si on le traduit « le faucon », Beniat Achari nous invite à découvrir à comment on interprète, recrée ces chants qui se réfèrent au vol ou au cri de l'oiseau. Du vautour à l'aigle, du milan royal au blanc pernoptère, chaque oiseau, chaque à sa correspondance, son chant libre et son chant sauvage. J'espère que vous avez pu aussi voyager grâce à Beniat Achari, à ce chant donc intitulé Bella Ciao, le faucon. Alors vous avez pu l'entendre, Beniat Achari est une voix, un corps de joueur, pelote, ballon, val, danse, mais un corps dont toutes les énergies se croisent dans la voix. Les voix de Beniat Achari, écrit Francis Marmande, commencent par sa voix naturelle, plutôt douce et lente, persillée de rire, bienveillante. Il sait la faire glisser dans le cri, le chant, le hoquet, le hurlement à plein poumon, la gravité, les harmoniques, les doubles sons, la tristesse ou les tressaillements. Fin de citation. instants suspendus, gestes aux voix mêlées, les mille voix d'Achiari, sa voix de montagne, sa voix de tête, sa voix de bronze aux sept harmoniques, sa voix grave et puissante, son filet de voix de femme, nous font vivre un chant étrange, inhabituel, qui nous transporte aux confins de la musique et du langage parlé. C'est ainsi que se termine ce premier volet consacré à Beniat Achiari. Vous pourrez suivre cette rencontre et découvrir d'autres facettes de Beniat Achiari lors de notre prochaine émission. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Réécoutez comme vous voulez ou vous le souhaitez en podcastant la présente émission et les autres émissions de Résonance sur le site de Résonance Contemporaine www.résonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. Bonne suite avec Radio B, portez-vous bien et à très vite.